Il y a de quoi faire pâlir les candidats à l'Élysée. Dans votre Vif de l'Histoire aujourd'hui, Jean Lebrun, un homme élu président de la République, le premier de notre histoire, avec 75% des voix, élu au suffrage universel direct, masculin uniquement. Le voici, Louis-Napoléon Bonaparte, qui monte à la tribune de l'Assemblée 20 décembre 1848 après ce triomphe.
La scène est racontée dans un ouvrage, L'invention de la présidence de la République, signé Michelet. Michelet, c'est un jeune historien de 2022, Maxime de son prénom. Je jure de rester fidèle à la République, une et indivisible. Déjà, l'un des affidés du prince Bonaparte, Persigny, lui recommande « Vous devriez jurer sous réserve !» Parce que depuis qu'il est entré en politique, un halo de coups d'État entoure Louis-Napoléon. Il se gardera toujours de le dissiper. L'élection ne fait pour lui que consacrer une légitimité qui lui vient droit de son oncle, l'empereur. D'ailleurs, il va se faire de suite appeler non pas Monsieur le Président, mais Monseigneur. C'est quand même une singulière république.
L'Assemblée constituante de la Deuxième République a elle-même bâti une organisation du pouvoir singulière.
Oui, Louis-Napoléon, dont le mandat de 4 ans seulement n'est pas renouvelable, ne dispose ni du droit de dissoudre l'Assemblée, ni de celui de signer seul les actes constitutionnels ou les traités. C'est un président façon quatrième, élu façon cinquième, un nain constitutionnel issu d'une élection géante.
Il n'est pas logé aux Tuileries, mais à l'Élysée, qui était à demi abandonné depuis 3 décennies, qui est réaménagé à la hâte.
Et on le baptise Élysée nationale, il faudrait plutôt dire Élysée Bonaparte. Dans un des grands salons trône un portrait de Napoléon. Le coupé de Monseigneur porte les armes impériales qu'on retrouve sur son sceau personnel. La monarchie de Juillet avait été très popote à l'Élysée. Louis-Napoléon entend qu'on s'amuse. Sa maîtresse en titre, la belle anglaise Harriet Howard, oui, il y a eu quelqu'un avant Eugénie, habite la rue contiguë. Chaque jeudi, les salons sont ouverts. Le premier bal se tient en février 49 oui. Et le second dès le mois de mars.
L'Assemblée finira par refuser les incessantes augmentations de frais de représentation demandées par Louis-Napoléon.
Ben oui, parce qu'il faudrait que les parlementaires soient de grands naïfs pour ne pas voir que le président leur mange la laine sur le dos. Un bon instrument de mesure, c'est le comptage des acclamations lors des voyages en province que multiplie Louis-Napoléon. Combien de « Vive la République, vive la Constitution » face au « Vive Napoléon », voire « Vive l'Empereur ». Dès février 1849, Monseigneur a le front d'aller visiter le fort de Ham, où il avait été emprisonné après une tentative de coup d'État. Et qui déclare-t-il « En ces lieux où j'ai souffert, je vous propose de porter un toast en l'honneur des hommes qui sont destinés à respecter les institutions de leur pays. » Bon, très bien. En dépit, ajoute-t-il, de leurs convictions. En dépit de leurs convictions. Louis-Napoléon est déjà prêt à exposer les siennes au bout de 3 mois de mandat et elles ne sont pas vraiment démocratiques.
Bon, l'Assemblée non plus n'a pas de convictions démocratiques.
Non, parce que élue au printemps 49, elle compte bien 250 démocrates socialistes, mais les royalistes conservateurs sont 450. Alors, longtemps, Louis-Napoléon reste au diapason de cette majorité parlementaire avec des déclarations du genre « Les gentils doivent être rassurés, les méchants trembler ». Mais les conservateurs commettent des erreurs. La pire étant, le 31 mai 1850, de retirer le droit de vote à 30% du corps électoral inscrit sur les listes du suffrage universel. Alors Louis-Napoléon fait entendre une petite musique de plus en plus insistante. « C'est moi qui dorénavant serai le protecteur du peuple ». 4 ans non renouvelables, c'est peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas prolonger le mandat? L'année 1851 va être occupée par des débats constitutionnels qui aboutissent à des impasses. Les démocrates socialistes se prennent pourtant à espérer en 1852. Est-ce qu'ils ne pourraient pas présenter un ouvrier, Martin Nadeau, un maçon de la Creuse, devenu député? À propos d'ouvriers, Louis-Napoléon se fait souvent surnommer Badinguet. C'était le patronyme de l'ouvrier charpentier dont il avait emprunté la blouse au fort de Ham pour s'évader une planche dissimulant son visage. Alors le livre de Maxime Michelet a raison de ressusciter Martin Nadeau. Il n'y a pas eu de débat Nadeau-Badinguet parce que Louis-Napoléon a fait un coup d'État en décembre 1851.
Michelet, Maxime Michelet, l'invention de la présidence de la République, édition passée composée. Merci Jean Lebrun. France Inter.